rage. Monsieur le Président, Madame Chirac, Bernadette, sur vos roues j'ai perdu mes dents, sur vos roues j'ai vu la fête. Le froid, la pluie, mon petit déjeuner tous les matins, le vent, j'ai dessiné en mille facettes. Un cœur rouge, il y aurait d'un gain, sans oublier de Lafayette. Ils vous diront, il faut avoir un grain, sur les rainettes, pour qu'on le chasse à l'âge de la retraite. Je n'ai jamais dit que j'étais saint, je conduisais une camionnette. Sincèrement, j'ignorais le tas, cela peut arriver aux prophètes. Monsieur le Président, Madame Chirac, Bernadette, s'il vous plaît, tendez-moi vos mains, au moins qu'à celui lunettes. S'il vous plaît, tendez-moi vos mains avant que je perds la tête. La rage, Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves, je vous demande pas la lune ni la fortune, s'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture, pulvérisée par la veuve. Prévu de me tuer du futur, l'angoisse vous de la preuve. La rage. C'est vrai que j'ai voyagé avec un pourriture, des pourritures. Il m'a joué le rôle du Satan, son rôle a grillé Adam et Ève. Je me suis trouvé derrière les murs pour avoir conduit une voiture. On m'a interdit le territoire, j'ai fait appel à Marceau Crève. Le seul moyen de dire au public que je n'aurai cyanure. Ici, ils peuvent le faire comprendre à ceux qui se sont réjouis de me jeter comme une ordure. Moi, Calissi, ma jeunesse et ma soeur sur les autoroutes du Toutry Villeneuve. Monsieur Sarkozy, monsieur de Villepin, s'il vous plaît, permettez-moi si j'ai osé de vous demander un coup de main. Car c'est lui qui m'a jugé, déteste les maghrébins. Même ce qu'on construit, le musée, le rachat de venin. Fallait voir comment qu'il a rougi, sans négliger, m'a coupé les jambes et compris les mains. Pire que les nazis, j'entends d'Hitler. Mon père, il a défendu la source et les artères dans les tenues de son fils numéro 1. Mais j'excuse les lésés si j'ai plus de freins. Si je laisse le moisi, adieu le pain. Voilà la poésie qui m'a permis d'analyser le défaut de l'humain. La rage, Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves. Je vous demande pas la lune ni la fortune, s'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture, pulvérisée par la veuve. Prévu de me tuer futur, l'angoisse vous de la preuve. La rage, je vous fais serment devant le juge. Tu juges ceux qui m'ont jugé, tel qu'un maghrébin. J'étais blessé chez mon voisin, il a rien aux zizi tout dans les reins. Il m'aurait donné un coup de fusil ou de me jouer un sale tour. J'aurais pardonné la putain. Pourquoi j'ai réagi, ça j'ai des gamins. Leur amour m'a fait bouger sans les voir, je leur envoie des câlins. Peut-être qu'ils sont bien protégés. J'ai jamais eu de nouvelles, je ne saurais vous dire la situation de mes poulains. La rage. Mesdames, messieurs les députés, mon âme vous avoue si sincérité. C'est vrai qu'Anne m'a fait tomber quand j'étais petit. Et lui c'est vrai qu'Anne avec ses talons j'ai pas pu l'éviter. J'ai pas pu l'éviter, sa banane m'a marqué pour l'éternité. Mesdames, messieurs l'égalité, vous connaissez le renard depuis sa naissance, il vous a jamais quitté. Malheureusement on profite de sa confiance mal placée, parce qu'on adore son identité. Mesdames, messieurs la fraternité, vous voyez la conscience, aujourd'hui l'incroyable devient réalité. La rage. Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves, je vous demande pas la lune ni la fortune, s'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture, pulvérisée par la veuve. Prévu de me tuer du futur, l'angoisse vous de la preuve. Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves, je vous demande pas la lune ni la fortune, s'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture, pulvérisée par la veuve. Prévu de me tuer du futur, l'angoisse vous de la preuve. La rage.
Chers auditeurs de Podquartier, l'émission du groupe Louise Michel sur Radio Libertaire, 89.4 FM en région parisienne, et sur le net pour le reste du monde. Aujourd'hui, j'ai François, qui a réussi à arriver malgré les tracas du métro parisien. Bonsoir François.
Salut.
Et surtout, nous avons un brillant géopolitologue, c'est ça? On dit ça comme ça, Vincent?
Oui.
Vincent Piollier, pour sa BD... qui est un brillant exercice de style, de synthèse, géopolitique, histoire et théorie. Publié chez...
Stankis.
Stankis, c'est une maison d'édition, tu pourrais nous la présenter s'il te plaît, parce qu'elle a une ligne éditoriale très engagée.
Oui, assez, c'est-à-dire, toute l'histoire de Stankis, tout ce que je sais, c'est que déjà, ils ont bien voulu éditer ma BD, donc c'était déjà bien sympa, que j'ai écrite, parce que je ne l'ai pas dessinée, on reparlera de Nicolas après, mais sinon, Stankis, c'est un éditeur où je trouve qu'il prend pas mal de paris, il a édité des BD là dernièrement, par exemple, sur la contraception masculine, il a une étude, l'étude en Algérie faite par Bourdieu. Alors, rien que le sujet en BD, je me dis, ils prennent des risques. Mmh. Pas mal de figures féministes aussi. Et puis aussi des BD plutôt loisirs. Enfin, je trouve qu'ils ont une ligne éditoriale assez large, mais ils n'hésitent pas à prendre des risques. Et je pense que déjà, en éditant une BD qui s'appelle Géopolitique, Histoire et Théorie, qui fait un peu peur, c'est un peu aride, comme ça, bah, ils ont dit OK.
C'est tout sauf aride, c'est drôlissime, et c'est une synthèse brillante qui part du 5e siècle avant Jésus-Christ pour arriver à l'heure actuelle. J'ai bien résumé le tempo ?
Oui, c'est ça.
Voilà. Alors, Vincent, nous allons commencer par le personnage. La première idée de génie, c'est d'avoir fait une BD pour expliquer la géopolitique. Ça, il fallait s'y coller. La deuxième idée de génie, sachant que ce sont surtout des hommes que l'on va voir dans cette BD, c'est d'avoir introduit une femme. Et on l'introduit par le biais d'une émission de télévision qui est présenté par le père de la géopolitique, qui est un certain Hérodote.
Hérodote, c'est ça.
Alors, qui est Hérodote ?
Alors, Hérodote, c'est quelqu'un d'intéressant. Il me fallait un fil rouge. Un fil rouge qui traverse, pour pouvoir présenter les différentes théories en géopolitique. Et donc, ça s'est situé sur Hérodote. Je n'ai pas la paternité de l'idée, parce qu'à Paris 8... il y a la revue de géopolitique la plus ancienne de France, qui a pratiquement 40-50 ans, qui s'appelle Hérodote déjà. Et moi, j'ai fait mes études à Paris 8. Donc, je leur ai un peu piqué l'idée d'Hérodote, qui est souvent présenté d'ailleurs comme le père de l'histoire. C'est comme ça qu'il est souvent présenté. Mais pas que, il a fait beaucoup de géographie. Il a été aussi un des tout premiers à avoir ce qu'on pourrait appeler des intuitions géopolitiques. Mais ce n'était pas de la géopolitique, parce que c'est une science, une méthode de travail qui arrive au 19e. Mais il avait des intuitions géopolitiques dans le sens où il s'est beaucoup promené. Et il faisait des inventaires, il classait tout, et à partir du moment où on classe tout, on fait des inventaires, que ça soit sur une population, sa politique, sa culture, jusqu'à sa cuisine, parfois même des descriptions physiques, etc., ça permettait de mettre un peu en œuvre des rapports de force un peu entre populations. Et lui, il avait une petite idée derrière la tête qui était que peut-être qu'il y aurait une nouvelle guerre médique qui allait arriver, et que notamment quand il se promène en Égypte, il se dit peut-être qu'il faudrait avoir cette population comme alliée de la Grèce qui se soulève contre donc les Mèdes, c'est les Iraniens actuels. Il avait déjà un petit peu cette idée derrière la tête quand il faisait tous ces classements, c'était de savoir sur quel levier on peut appuyer. Mais ça c'était pas de la géopolitique au sens qu'on pourra voir au 19e. Donc voilà un petit peu, et ça a été dessiné donc par Nicolas Gobi. Parce que moi je suis l'auteur, mais c'est lui qui a croqué le petit Hérodote. D'ailleurs, il a sa barbe, une espèce de double barbe à la grecque, un petit peu particulière. Et avec Nicolas, on a aussi voulu... je lui ai proposé aussi de mettre une femme, parce que quand vous faites l'histoire des théories géopolitiques, vous arrivez avec des gens barbus, un peu chauves, tous vieux. Ça manquait un peu de
féminin.
Voilà, de féminin. Donc ça, bon, c'est un peu un petit truc de faire valoir. Mais bon, j'ai dit on va mettre une jeune femme qui va rentrer dans l'ouverture de la bande dessinée. C'est l'entrée dans les classes de première et de terminale avec la réforme du bac qu'il y a eu, l'entrée de la géopolitique pour toute une partie des élèves, des étudiants. J'imagine qu'ils pensaient que les profs d'histoire géo n'étaient pas assez occupés, alors ils leur ont donné la géopolitique et les sciences politiques. Maintenant, c'est plus S, ES et L. Maintenant, le bac, c'est différents modules. Et quand ils prennent le module donc H, G, G, SP, histoire, géographie, géopolitique, sciences politiques, ils ont des cours de géopolitique pour les premières et les terminales. Et donc, cette jeune femme ouvre sa télé et voit ça. Et donc, il y a Hérodote qui présente l'émission.
Et surtout, qui n'en revient pas, qu'on ne le connaisse pas.
Oui, aussi, oui, parce que...
C'est très drôle.
Hérodote, oui.
C'est le premier trait d'humour qui est excellent.
Parce que j'imagine que quand on est en première, en terminale, Hérodote, c'est pas forcément, même quand on a des cours de philo, c'est pas la... Il a sorti essentiellement l'enquête, c'est son enquête qui est connue, qui était des fragments qui ont été retrouvés, qui ont été publiés, c'est l'œuvre qu'on connaît de lui. Mais il est connu, voilà, des géographes, des historiens, parce qu'il a produit cette œuvre-là. Mais c'est pas quelqu'un qu'on va étudier en première, en terminale. C'est un auteur qu'on voit si vraiment après on va à l'université, on fait des études là-dedans. Donc il est pas forcément connu. Donc,
alors le trait de Nicolas Gobi. Alors Nicolas Gobi est italien. Et surtout pour les libertaires que nous sommes, c'est lui qui a publié une enquête pendant la Commune de Paris avec Jean-Louis Robert et Carole Trébor en 2021. C'est une BD excellente que j'ai failli me faire offrir.
Oh, la circonlocution.
Oui, mais bon, je vais me l'offrir parce que après avoir vu son croquis dans Géopolitique, Histoire et Théorie, j'ai envie d'avoir cette BD. Donc voilà. Donc Nicolas Gobie, tu peux expliquer comment tu as travaillé avec lui ?
Bien, déjà, comme il vit en Italie, mais il est francophone, on faisait un petit peu des visios. Et c'est l'éditeur qui a l'habitude de travailler avec lui. Parce que oui, son enquête, il en a fait en deux épisodes. Mmh. Il a fait Rouge passé et Rouge estampe. Voilà, en deux épisodes. C'est un peu une enquête plutôt romancée, mais ça se passe avec comme toile de fond la Commune. Et moi, j'étais... Enfin, je connaissais pas avant, mais l'éditeur m'a dit bah faudrait voir avec lui en termes d'idées tout et moi je trouve qu'il a fait du bon boulot parce que ce qui est difficile déjà quand on n'est pas il est francophone mais sans maîtriser la langue parfaitement mettre en dessin des concepts géopolitiques qui sont pas encore une fois c'est difficilement c'est pas visuel en fait.
Oui.
En plus moi j'avais l'idée de faire cette BD géopolitique. J'avais l'idée c'est une BD qui m'avait beaucoup marqué qui était sortie il y a une quinzaine d'années qui s'appelait Economics.
Oui.
Je sais pas si vous la connaissez.
Ah oui.
Qui est une BD qui est un peu un carton, on la retrouve encore beaucoup. Et moi, elle m'avait beaucoup marqué parce que les théories économiques, pareil, c'est assez aride. Et cette BD-là avait réussi le pari de pouvoir illustrer c'est quoi l'école de la régulation, c'est quoi le keynésianisme, c'est quoi le néolibéralisme, etc. Et il l'avait illustré. Et après, cette BD qui s'appelle Economics, il y a eu toute une série, il y a eu des psychologistes, des cosmologistes, ils mettaient un X à la fin.
Tout à fait.
Voilà, ça a été le début, on va dire, de la BD pédagogique.
Et la dernière, c'est Le choix du chômage de Benoît Colombat.
Voilà, donc je pense que, que j'ai lu d'ailleurs, on me l'a offerte. Pour le coup, moi, on me l'a offerte.
Moi, non seulement je me suis offerte, mais Benoît Colombat est venu dans l'émission pour en parler.
Bah, elle est super, cette BD d'ailleurs.
Elle est magnifique.
Cartonne.
Typiquement, je pense que ce type de BD un petit peu pédagogique, Le choix du chômage, lui, elle va un peu plus loin parce qu'elle est même très documentaire.
Ah oui.
C'est une vraie enquête. Mmh. Mais ne serait-ce que, prendre des concepts un peu pédagogiques, maintenant, il y a histoire de la littérature en BD, il y a même histoire de la bière, histoire du vin, il y a histoire de tout. Et donc, j'ai pas pu mettre géopolitique avec un X à la fin parce qu'il y avait un YouTuber qui a déposé le nombre. Donc j'ai vu, ça sera géopolitique sans le X. Mais j'avais fait ça avec l'idée de la BD Economics qui m'avait marqué et parce que je m'étais dit, moi j'ai beaucoup étudié l'économie. Mais en commençant par cette BD-là, je pense ça permettrait à pas mal d'étudiants d'y voir d'être pas mal clair. Alors, je me dis, en géopolitique, allons-y, quoi.
Alors, l'Égypte est un don du Nil, ça c'est Hérodote qui le dit.
C'est ça.
Et il a inventé le delta, la figure du delta.
Oui, le terme, c'est ça. Parce que ça fait un delta, le delta du Nil, en fait, c'est parce que c'est la lettre grecque à l'envers, là, qui fait le delta.
Donc on retiendra ça pour ceux qui nous écoutent et qui doivent passer le bac. Donc retenez ça au moins d'Hérodote et achetez la BD pour le reste. Mmh. Alors, au 19e siècle, la notion de géopolitique, c'est un territoire, des acteurs et un rapport de force.
C'est ça. Voilà. Je fais un petit bonhomme qui fait une recette de cuisine. Parce que il faut trois ingrédients. C'est ça, parce que la difficulté, quand on veut définir, en fait, c'est aussi comme ça que j'ouvre la BD, c'est-à-dire que le mot géopolitique, c'est un mot très chargé, qui permet, c'est surtout, c'est un mot, vous dites géopolitique, généralement tout le monde aime ça, c'est un peu un argument d'autorité à lui tout seul parfois. Géopolitique, c'est un mot qu'on impose, et on se retrouve avec la géopolitique de tout et n'importe quoi, géopolitique du sport, géopolitique des sentiments, géopolitique de ci, de ça. Mais on perd un petit peu l'origine déjà de ce mot qui est un mot étymologiquement qui est assez neuf, hein, qui date du début, je crois que ça doit être 1901, 1902. Mmh. C'est un Suédois qui l'a créé, ce mot. Et donc c'est quelque chose qui est vraiment lié au 19e, mais qui intervient aussi, on va dire, dans la tradition de où il y a des courants philosophiques, notamment liés à, on va dire, à Hegel, on pourra peut-être en revenir un petit peu dessus, qui vient aussi au fait que le monde devient fermé. C'est-à-dire qu'au 19e siècle...
On a tout découvert.
Voilà, on a tout découvert, et ce que je prends, je le prends au détriment d'un autre, en termes de territoire. Indépendamment même, bien sûr, de tout ce qui est colonie. Hein, c'est-à-dire que parfois, c'est au détriment des gens qui y vivent déjà.
Oui,
mais même des terres les plus reculées, la petite île perdue en Arctique ou en Antarctique.
L'île d'Adélie, par exemple.
La terre d'Adélie, par exemple.
Alors, j'adore.
Au détriment d'un autre.
Voilà, j'adore pourquoi elle s'appelle la Terre d'Adélie. Ça, c'est expliqué très bien dans la BD. Je vous laisse le découvrir. Mais en tout cas, c'est décrit avec humour.
Oui.
C'est un certain Jules Dumont d'Urville.
Voilà.
Et il avait une femme qui s'appelait Adèle Pépin. Donc, après, vous comprendrez pourquoi, peut-être.
Oui, il y a la Terre Adélie, il y a le Cap Pépin, il y a les Manchots Adélie. Donc, il a tout nommé un peu en fonction de sa femme.
Qu'il adorait, apparemment. Bon, alors, ce qu'il y a de bien, c'est que tu as fait défiler, et Nicolas les a croqués, tous les grands inventeurs les grands inventeurs de la géopolitique. Tous. Y compris...
Alors, pas tous.
Pas tous, mais les plus grands. Y compris, à un moment donné, on tombe sur Élisée Reclus.
Ouais.
Ça m'a fait plaisir.
Oui. Alors, pareil, Élisée Reclus... de la même façon que quelques autres, il faut pas rétroactivement, on peut pas dire qu'il ait fait de la géopolitique.
Mais en tout cas, géographie, certainement.
Voilà. Ça, de la géographie, ça, c'est clair. Mais ce qui est intéressant avec Élisée Reclus, c'est qu'il va en contradiction avec l'école, avec la géopolitique allemande du moment, qui est très déterministe géographique, c'est-à-dire les peuples sont enfermés dans leur géographie physique. Le peuple émane du sol, de l'État. Donc c'est vraiment les auteurs pan-germanistes qui vont développer cette idée qui va donner lieu à pas mal de dérives. Mmh. Et Élisée Reclus, lui, il retourne tout ça en disant que c'est plutôt ce qu'on appelle du possibilisme en géographie. Qui est plutôt une école française, d'ailleurs, on l'a aussi vu avec Paul Vidal de Lablache, et plusieurs théoriciens après en géopolitique le reprendront, qui vont contrecarrer le déterminisme en géopolitique et développer le possibilisme qui est que l'homme agit sur son environnement. Il n'est pas enfermé, certes l'environnement géographique peut conditionner son action politique, mais il n'est pas conditionné par lui, parce qu'il y a la technique, il y a la technologie, il y a l'organisation de la société, il y a plein d'autres paramètres, et il s'adapte. Donc c'est une vision complètement inverse aux Allemands, mais c'est lié certainement, alors c'est un peu l'intuition que je fais, c'est lié je pense à la Révolution française, qui fait que un citoyen n'est pas, c'est pas le sang, c'est pas d'où il est né, c'est plutôt s'il partage des idées. Il est citoyen indépendamment d'où il vient, etc. Il est dans ce contrat social, on va dire, ça rentre en complète opposition à ce qui se passe à la même période en Allemagne.
Alors moi, ce que j'ai trouvé fantastique dans la synthèse, c'est de partir du pacte germano-soviétique, à un moment donné, d'arriver à expliquer la naissance de la Marseillaise, mais oui, oui, elle a une histoire, la Marseillaise. Ensuite, de revenir sur la colonisation et le cas de Madagascar, avec Gallieni, qui a massacré les Malgaches sans que la métropole ne bouge, et expliquer que la naissance de la géopolitique, c'est vraiment en Prusse, et de présenter Bismarck et la proclamation de l'État-nation allemand dans la Galerie des Glaces. Ça, c'est étourdissant.
Ouais, ben ça fait beaucoup de trucs d'un coup, là, d'ailleurs.
Quand j'ai lu ça, je me suis dit, bon, je reviens en arrière parce que...
Oui, mais c'est articulé normalement, hein, parce que dit comme
ça,
ça fait plein de...
Mais oui, mais c'est ça qui est génial dans cette BD, c'est que c'est articulé et on passe d'une théorie à l'autre. On s'est dit, waouh, vraiment, il s'est donné du mal et ça en vaut vraiment la peine.
Oui, parce que déjà, ce qu'il faut souligner, et c'est ce que je mets assez rapidement dès le début de la BD. Alors déjà, la géopolitique, il y a la géopolitique et il y a les théories géopolitiques et il y a les discours sur la géopolitique. Mmh. C'est vraiment deux choses différentes. C'est-à-dire que souvent, dans l'histoire, la géopolitique a été montrée comme une science. Ce n'est pas une science, c'est une méthode de travail. Et ça a permis de justifier...
L'injustifiable.
Ça a permis aussi de justifier des projets politiques. C'est-à-dire que le discours géopolitique en lui-même permet de justifier des actions politiques sous couvert de pseudo-sciences. Alors, pas pseudo-sciences au sens charlatan, mais c'est-à-dire, c'est pas scientifique, c'est pas reproductible. C'est quelque chose qui est tout le temps en interaction. C'est des rapports de force qui sont en permanence en mouvement. Donc, il n'y a pas une théorie figée qui va s'appliquer partout pareil, indépendamment de l'histoire et des gens. Ça, c'est pas du tout le cas, mais certains le pensent, notamment les déterministes, qui sont très, très influents, même encore aujourd'hui.
Oui.
Les néoconservateurs, c'est une vision déterministe de la géographie.
Tout à fait.
Où là, c'est plus les peuples, mais on va parler de culture, etc. Enfin bref, l'axe du mal, etc.
Ouais.
Et ce qui est important à souligner, c'est que ce que je voulais montrer, parce que c'est quand même un public étudiant, c'est qu'il y a une notion critique vis-à-vis... Il y a les théories qui sont très intéressantes, mais il faut faire attention de l'utilisation de ces théories à partir du moment où c'est fait à des fins de projets politiques, d'idéologie, et notamment, ça a été le cas pour justifier la colonisation.
Tout à fait.
On a utilisé... et pas que la colonisation, mais quand tu prenais, par exemple, l'Alsace-Lorraine, ça a permis à dire à des enfants, l'Alsace-Lorraine appartient à la France, il faut faire la guerre aux Allemands, pour la récupérer, et on va justifier cette Alsace-Lorraine qui est française par des représentations, par des idées, par des concepts, encore une fois, sur des théories géopolitiques.
Et on crée la Marseillaise pour donner envie aux soldats d'aller taper sur les Allemands. Les soldats allemands. Voilà. Donc ça, au moins, c'est dit. Bien. Alors, autre chose, il y a des définitions qui apparaissent, et j'ai bien aimé le passage qui arrive à la définition des Aryens. Par les temps qui courent, avec l'extrême droite, l'antisémitisme et tout le reste, d'avoir... Et je dois préciser que ton livre est sorti un peu avant les événements du mois d'octobre. Il est sorti en septembre. Donc, toutes ces notions-là nous permettent d'avoir une vision plus éclairée sur l'actualité et les deux conflits majeurs dont on parle tout le temps, l'Ukraine et Israël et Palestine. Voilà. Donc, d'avoir Mussolini, le panisme, enfin, toutes ces théories, et surtout, on va arriver à un moment donné à l'émergence d'un continent, les États-Unis.
Oui. Donc, alors les États-Unis...
Et
oui,
surtout la destinée manifeste. Ça, c'est très important pour les...
Oui, qu'on va retrouver, qu'on retrouve toujours aujourd'hui, d'ailleurs.
Oui.
Donc, alors les États-Unis, c'est assez particulier parce que, moi j'ai été formé par Yves Lacoste, Béatrice Gibelin, donc par Paris 8, et ce qu'ils ont apporté, enfin surtout Yves Lacoste, c'est ce qu'on appelle le concept des représentations.
Mm-hmm.
Je vais expliquer pourquoi c'est important pour les États-Unis et pour ce qui suit, c'est-à-dire que dans les représentations, ça se définit comme y a deux côtés. Les représentations chez des individus dans une population, c'est les idées qu'il se fait du monde, c'est la vision du monde qu'il a. Mais cette vision du monde qu'il a le met en action, en mouvement aussi. Donc politiquement, il va agir. Donc c'est un petit peu le concept de Bourdieu avec l'habitus, mais qui est au niveau très individuel. On a ce qu'on appelait la structure structurée, c'est-à-dire ce qu'on acquiert en idées, en idéologie, etc. Et structurant parce que c'est les forces qui vont vous mettre en mouvement et qui vont vous faire agir. Les représentations, c'est à peu près la même chose, mais sur des populations, et c'est important en géopolitique, c'est ce qu'a apporté Yves Lacoste, qui est vraiment le concept clé. Quand on reprend la destinée manifeste, c'est une idée aussi qui est très importante aux États-Unis, c'était... Pour justifier la colonisation, parce qu'il faut toujours un discours pour pouvoir notamment aller massacrer des populations locales.
Qui ne vous ont rien demandé.
Voilà. Et,
qui étaient sur place.
Qui étaient sur place, mais il faut acquérir ces représentations pour pouvoir faire entrer les gens aussi en mouvement. C'est-à-dire, indépendamment des aspects moraux, il faut qu'il y ait un moteur. La destinée manifeste, c'est quelque chose qui est très lié à la vision essentiellement messianique de toute une population immigrée européenne qui arrive sur le territoire américain et qui va pousser vers l'ouest. Et forcément, en poussant vers l'ouest, il y a des gens. Et on est dans une conquête coloniale. Et cette destinée manifeste, qui est très liée au protestantisme, leur dit que c'est des gens qui ont cette destinée, comment dire, c'est la volonté de Dieu que d'aller sur cette terre promise, et que comme ils ont été choisis, on retrouve ça encore dans le protestantisme et dans certaines églises baptistes, ils ont été choisis par Dieu, et donc bah, pas de chance si on n'a pas été choisi. Donc là, en l'occurrence, les Indiens, bon, on sait qu'ils n'ont pas été choisis pour eux, et donc ça justifie la possibilité, de ces conquêtes. Et cette destinée manifeste, qui est vraiment, qui a été ce moteur, on va le retrouver après, dans la vision du monde qu'auront par la suite les Américains, dans le sens où ils vont toujours vouloir, enfin, une partie de la population américaine est dans cette vision, qui est d'être persuadé, de propager le bien à travers le monde. Et donc là, la destinée manifeste, on est plutôt sur des théoriciens comme Alfred Mann.
Et le Sea Power.
Voilà, et le Sea Power, mais elle fera tout son chemin dans toute la politique étrangère américaine avec la doctrine Monroe, le corollaire Roosevelt, etc. Mm-hmm. Jusqu'à, encore une fois, jusqu'à nos jours avec la queue de la comète qui est le néoconservatisme américain, qui est toujours empreint de cette vision messianique de la politique étrangère, de toujours conquérir pour apporter le bien, comment eux le définissent.
Voilà. Et on va prendre un exemple de géopolitique concret. Mmh. Après la pause musicale, ça va être le Panama.
D'accord.
J'en ai plus rien à battre, j'ai joué en connaissant les cartes. L'enfant a brisé son hocher, mordu les tétons de sa nourrice, traumatisé sa tutrice. Qu'est-ce qu'on va faire de toi? Les mains faites pour la merde. Attrape une serpillère, nettoie. Mes nuits s'échappent du pot de ma première 103. Je lève les stores de ma fenêtre, les étoiles comme ancêtres. Qui t'a dit de parler sans lever le doigt? L'homme a si peu évolué, retourne dans tes escaliers, la terre ne va pas s'arrêter de tourner. Une bagatelle pour un chien sans maître. Au fond de la classe, au dernier rang, des amitiés peuvent naître. Quelques Gaulois qui n'ont pas eu le choix, et quelques métèques buvons à notre échec. Nos parents, leurs dettes, un toit sur la tête. Le petit est malin, mais ça reste une bête, qui ne mord pas pour rien, qui ne se querelle pas pour des miettes. Pour des miettes. Moustiquaire à ma fenêtre, 35 au thermomètre, ventilo gueule ouverte, soleil lourd, rue déserte, coup de chaud, sirocco, ombre longue du château d'eau, silhouette d'un chien sans maître, mort de soif sur des kilomètres, et dans ce faux tableau, deux des Kérico, ne compte alors pour moi que le mondial de Mexico. J'ai 10 ans, tous mes chicots, une gourmette en toc, un drapeau du bled au froc, des punaises plein les poches, au-dessus de mon lit j'accroche les photos de tous mes héros, dont mon oncle m'a fait cadeau, Socrates, Diego, Bellomi, Rocheteau,
Bats, Majer, Zico, Marius, Trésor, Boutra, Guigno. Pour jouer comme ces fauves, il faut avoir grandi pauvre. Cru au miracle qui sauve. De la boue nauséabonde, de tous les taudis du monde. Moustiquaire à ma fenêtre, 40 au thermomètre. Le ventilo délire, dans cette canicule à tout cuire. Quand des cris dehors déchirent, le silence et la rue. Comme un coup de lame dans la viande crue. De ma fenêtre, j'ai tout vu. Mon oncle qui a couru. Les gendarmes à son cul, 6 flingues et 6 plaques, un fourgon, un cul-de-sac. Ils ont serré les menottes, il a serré les dents. C'était un jour blanc, un jour de rafle pour truand. 4 ont tout avec lui, 4 ont tout avec lui. Kader Ali, Kader Ali, Ahmed Djilali, Ahmed Djilali. Juillet 86, juillet 86. Perpignan double 6. Il faut avoir grandi pauvre. Faut avoir grandi pauvre. Pour se faire courser comme un fauve. Loin des miracles qui sauvent. De la boue nauséabonde. De tous les taudis du monde.
Chers auditeurs de Podcartier, l'émission du groupe Louise Michel sur Radio Libertaire, 89.4 FM en région parisienne et sur le net pour le reste du monde. Nous sommes dans la deuxième partie de l'émission avec Vincent Piollier. Vincent, on te reçoit pour ton excellentissime BD Géopolitique, Histoire et Théorie chez Stankis. Alors, le Panama, le canal et le pays.
Oui.
Quid ?
Alors, il faut faire un petit retour. Alors, voilà. Parce que le Panama, pour arriver au Panama... déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que les États-Unis, dans les années donc 1820, le président américain James Monroe, donc qui est connu sous essentiellement pour sa doctrine, hein, la doctrine Monroe, qui en gros, pour le résumer, dit aux Européens, nous, on viendra pas vous embêter en Europe. Par contre, le continent américain, plus de colonisation, c'est fini maintenant, c'est chez nous. C'est nous qui remodelons ça un petit peu à notre sauce. Donc, le continent américain n'est plus ouvert à la colonisation. C'est notre zone d'influence. Et en échange, nous, on ne vient pas en Europe, etc.
En Europe ou en Afrique.
Ou en Asie. Ou en Asie, ouais. On sait ce que
les
ça...
Les Européens, ils sont un peu partout, quand
voilà.
même.
Voilà. On sait ce que ça donne après, mais bon. Bref, ça, c'est un petit peu l'idée. Et ce qui se passe, c'est que pour pouvoir contrôler ce continent américain, il y a donc Alfred Mahan, qui est quelqu'un de la marine américaine, qui lui théorise, c'est quelqu'un qui était peu sur les bateaux, mais qui a lu toutes les guerres maritimes depuis qu'il y a des bateaux pratiquement, et il s'est rendu compte notamment, donc il a une théorie, et ça lui a donné le tournant, c'est la guerre entre la Russie et le Japon à la fin du 19e, où d'ailleurs les Japonais se sont beaucoup inspirés de ces théories, donc elles marchaient, qui est de concentrer un peu tous les bateaux militaires, en fait, de faire une grosse force. La masse, en fait, permet de conquérir des territoires. Et ça s'est avéré vrai, notamment pour le Japon, qui est la première fois qu'une puissance non occidentale bat une puissance occidentale à cette période. Ça faisait longtemps. Et lui, pour pouvoir contrôler... donc ce territoire, suite à la doctrine Monroe. Donc déjà, ce qui est intéressant, c'est que Roosevelt, donc là on est à la fin 19e, début 20e, le président Theodore Roosevelt et son ami, et ses crédits illimités pour construire une marine de guerre importante. Sauf que, comme il faut un peu concentrer sa force maritime, c'est un peu difficile entre la côte pacifique et la côte atlantique. Il y a à peu près 20, 21 000 kilomètres quand on passe par le sud. Donc, ils se disent, ce serait pas mal de mettre la main sur le canal de Panama, sachant que les Français avaient commencé les travaux. Ça a été un énorme fiasco, corruption, énormément d'ouvriers qui meurent, etc. Enfin, les conditions, ça a été un... un fiasco.
Alors, le scandale Panama, c'est voilà. Avec l'affaire Stavisky, les gens connaissent en général.
Voilà, et donc les Américains se sont dit, bon, bah, on va reprendre l'idée. Et ils ont demandé, à l'époque, le Panama n'existait pas en tant qu'État souverain, c'était la Colombie. Et ils ont dit, bonjour, bonjour messieurs de la Colombie, nous on continue, on met à terme le projet du canal, et par contre, ça sera chez nous, ça sera à nous le canal. Et les Colombiens leur ont dit, bah non, non c'est,
bah, ah oui, c'est vrai.
Bah, c'est chez nous, donc non, on veut pas vous donner comme ça... même si vous finissez les travaux, vous n'allez pas avoir toute la concession. Alors les Américains, bah, ils sont assez malins. Comme par enchantement, quelques jours après, il y a un sentiment national panaméen qui émerge et qui demande de faire sécession, parce que c'est une région de la Colombie, le Panama, de faire sécession du reste du territoire. Et à partir du moment où il y a ce sentiment national comme ça qui émerge pour pouvoir faire sécession, les Colombiens, bah, ils sont pas très d'accord. Ils disent, bah non, non, vous allez pas faire sécession. Mais ils ont même pas eu le temps de dire ouf que la marine américaine était déjà là. Attention, nous on les soutient, on les soutient. Donc si vous touchez aux Panaméens, nous on est pour leur volonté d'autodétermination, etc., qui est un tout petit pays. Donc, très rapidement, le Panama acquiert son indépendance. Et sauf que dans son indépendance, dans sa constitution, déjà, il y a écrit que l'armée américaine est chez elle. Elle intervient quand elle veut. Elle a la concession pendant jusque un peu moins de 100 ans.
99,
voilà, sur le canal. Il y a aussi toute une zone, qui est-à-dire, en plus de la concession, il y a tout le territoire qui le borde, qui est territoire américain, avec l'armée américaine. D'ailleurs, même actuellement, hein, toujours actuellement, même si le canal appartient au Panama, par exemple, il n'y a pas d'armée panaméenne. C'est toujours l'armée américaine qui protège le Panama, qui a ses intérêts. Et donc on a ce canal qui est creusé, qui permet de réduire par plus de deux fois la distance pour la marine américaine. Mais ça revient aussi, donc ce sea power, donc ce pouvoir par la mer qui avait été développé par Mann via la marine, ça a aussi d'autres impacts donc sur Cuba, sur qui était une colonie espagnole, sur Porto Rico, puis sur Hawaï, l'île de Guam, les Philippines, etc. Ça a aussi encore d'autres conséquences. Mais voilà pour le Panama.
Excellent. Mais par contre.
Excellent. Enfin, la CIA n'existait pas, mais ils avaient déjà la méthode hein, créer des mouvements révolutionnaires pipeaux. Hein,
voilà.
Tout à fait.
Comme le Nicaragua, par exemple.
Est-ce qu'on pourrait revenir sur Cuba, qui est un.
Oui.
La première guerre de Cuba contre les Espagnols et Guantanamo, c'est pages 38 et 39.
Oui. Ça aussi, c'est assez intéressant parce que ce qui était. En fait, ce qui se passe avec la guerre contre l'Espagne, donc pas avec les États-Unis, c'est. Et puis d'ailleurs, ils mettent vraiment en marche la doctrine Monroe, c'est-à-dire ce qu'on appelle le corollaire Roosevelt. C'est-à-dire, le corollaire Roosevelt, c'est la conséquence de la doctrine Monroe. C'est en gros. On agit militairement, on se cache même pas, on fait la guerre pour nos intérêts, et les Espagnols, on va les mettre dehors. Voilà. Sauf que c'est difficile de dire aux Cubains, bonjour les Cubains.
On pensait par là.
on va prendre la place du colon et on va vous coloniser. Donc non. Donc ce qu'ils font, et c'est la presse à l'époque comment les États-Unis sont rentrés en guerre contre l'Espagne, c'est le prétexte qui est mis en avant, c'est de libérer le peuple cubain de l'oppression espagnole. Voilà. Donc en mettant en avant cette idée. Qui était complètement fallacieuse, parce que ce qui se passe à Cuba à cette époque, c'est notamment la production de sucre et toutes les plantations qui sont très importantes, et les intérêts économiques des États-Unis à Cuba sont très très importants. Donc c'est même pas possible que Cuba puisse être libre, dans le sens où il y a trop d'intérêts économiques américains. Donc on va dire qu'on va libérer le peuple cubain du joug espagnol, mais en fait ils mettent dehors les Espagnols pour occuper l'île, mais comme ils sont pas dans une stratégie de colonisation à l'européenne, mais on est plutôt dans un impérialisme, au sens où ils vont mettre des marionnettes, ils vont surtout mettre en place une constitution ad hoc. Dans la constitution, il y a écrit que, pareil qu'au Panama, l'armée américaine intervient quand elle veut à Cuba, D'ailleurs, elle prend la base de la baie de Guantanamo, qui est toujours un territoire américain sur l'île cubaine. Oui. C'est à partir de ce moment où, en gros, ils les ont libérés, entre guillemets. Guantanamo devient une base militaire, une base navale, qui est très importante pour les Américains, parce que la mer des Caraïbes, c'est un peu comme la Méditerranée pour l'Europe, c'est leur Mare Nostrum, comme ils disent. Donc, ils ont besoin de points d'appui. C'est pour ça aussi qu'en même temps qu'ils mettent dehors les Espagnols de Cuba, ils les mettent dehors aussi de Porto Rico. Ils prennent Porto Rico, pareil, base militaire qui existe toujours, américaine très importante. Ils en profitent aussi pour mettre dehors les Espagnols de l'autre côté, donc plutôt pacifique, des Philippines.
Oui.
Pareil, là, ils disent... alors là, ça a été plus violent même encore qu'à Cuba, parce que là, ils ont carrément colonisé pour de bon. C'est-à-dire, il n'y a même pas eu de simulacre. Et au début, ils ont financé, ils ont aidé le peuple philippin à se soulever contre les Espagnols. Sauf qu'une fois qu'ils ont mis les Espagnols dehors, la guérilla philippine a commencé... normalement, à combattre les Américains, en disant « Non, non, mais on ne veut pas de nouveaux colons, là. »
Tout à fait.
Et là, il y a eu plus de 100 000 morts, par contre. C'est-à-dire que l'armée américaine s'est déchaînée, a complètement massacré les Philippins, et c'est devenu une colonie américaine. Au passage, ils ont pris l'île de Guam aussi, aux Espagnols. Mmh. Et ça, c'est des têtes de pont qui sont très importants, et même encore... Alors, l'île de Guam est toujours américaine, ce qui est très important dans le jeu actuel de la rivalité avec la Chine, notamment. Là, les Philippines sont indépendants, mais on a toujours une base militaire américaine aux Philippines, qui est toujours un héritage de tout ça.
Guantanamo reste prison.
Oui, qui est toujours une prison, base militaire, base très stratégique. Il n'y a qu'à avoir une carte au niveau de la géographie. Si vous voulez avoir... on est au milieu du golfe du Mexique, de la mer des Caraïbes. Vous avez la place la plus centrale avec Porto Rico, ce qui est très important en termes de ravitaillement. En plus, Guantanamo, c'est aussi une espèce de trou noir juridique qui permet à emprisonner, bon, ça, ils s'en sont servis après coup, je pense qu'ils ne le savaient pas sur le moment, mais à les mettre en dehors de toute juridiction américaine, sous une espèce de juridiction spéciale militaire qui permet la détention de personnes sans respect du droit. Le plus élémentaire, mais bon, ça, je pense que des juristes sont mieux placés pour connaître, et c'est ce qu'on a vu notamment avec l'Afghanistan, l'Irak, etc., où il y a toujours des gens qui sont enfermés là-bas, en combinaison orange, on connaît tous les images et l'histoire, quoi.
Parfait. On va prendre un autre cas, si tu l'acceptes.
Oui, je l'accepte.
Page 47, le grand jeu.
Ah oui, le grand jeu, oui.
Donc, la définition du mot « le grand jeu », c'est...
Ah oui, alors, le grand jeu, alors là, c'est parce que on arrive sur une théorie... Alors, il y a eu le Sea Power,
voilà.
Donc le pouvoir de la mer, et à peu près au même moment, début 20e, et c'est là où Mann n'utilise pas d'ailleurs le mot « géopolitique », Mackinder, donc c'est un anglais, lui, pour le coup... Mm-hmm. Va théoriser, lui, plutôt pas un pouvoir de la Terre, mais il a une obsession, alors on est encore dans une vision très déterministe de la géographie, il pense que maîtriser ce qu'il appelle le Heartland, qui est un territoire qui en gros se situe sur la Russie à peu près, à partir du moment où vous possédez ce territoire, c'est ce qu'il appelle l'état pivot mondial. C'est ce qui vous permet d'accéder, de contrôler le monde. Si vous contrôlez cet état-là, vous avez toutes les richesses, les ressources possibles, et surtout que vous avez une espèce de forteresse qui vous permet d'être... on ne peut pas vous envahir, pratiquement. Et l'histoire montre d'ailleurs que la Russie... je veux dire, en termes d'invasion, c'est compliqué.
Oui, je pense que Napoléon
voilà,
et Hitler voilà, vont témoigner.
Plusieurs se sont cassés les dents dessus. La plus grande crainte de Mackinder, qui est un Anglais, donc déjà, lui, il voit la révolution bolchevique. Et alors là, il est complètement en panique totale. Il se dit, les bolcheviques ont acquis le Heartland, donc ce qu'il appelle le Heartland, et la grande crainte qu'il a, c'est de faire la jonction avec ce qu'on appelle les mers chaudes au sud. Mm-hmm. Si le Heartland, s'il y a le pivot, fait la jonction avec les mers chaudes du sud en océan Indien et qui développe une marine assez puissante, ce serait une puissance invincible. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez une marine puissante grâce à l'accès aux mers chaudes, plus une forteresse terrestre, vous pouvez dominer le monde. En tout cas, selon lui et selon les exemples qu'il donne de son déterminisme géographique.
C'est en quelle année ?
Alors là, on est en... Mackinder, c'est Première Guerre mondiale. Donc, il vit vraiment, il fait sa théorie du Heartland juste avant la révolution bolchevique. Donc déjà, il a théorisé avec les invasions mongoles, etc. Il a déjà fait des plans en disant que voilà, on peut pas envahir par le nord à cause des glaces, voilà. On peut pas envahir non plus vraiment avec l'Himalaya, le sud, c'est compliqué. Par l'est aussi. Et
il se base sur Archimède pour parler de son pivot. Voilà. Avec un pivot, je lève le monde.
C'est ça, voilà. Archimède qui dit voilà, avec un tout petit pivot, bah, c'est comme le cric d'une voiture, hein, avec un tout petit effort physique, on peut démultiplier la force. Et lui, c'est l'idée qui met en place avec cet état pivot. Et donc, le grand jeu, c'est quoi? Bah, c'est que pour pouvoir faire cette percée vers les mers chaudes, il faut passer. Donc, c'est difficile de passer par l'Empire, par l'Iran à l'époque. Donc, c'est de passer par... en fait, on va vite se confronter à une autre puissance, à une puissance coloniale qui est la puissance britannique, mmh. et qui est tout ce qui est l'Empire...
L'Inde.
Voilà, oui. L'Inde. Et à l'époque, l'Inde, c'est pas que l'Inde actuelle, c'est aussi le Pakistan. Mmh. Et pour pouvoir faire cette percée que les Russes veulent faire vers le sud, il faut passer par le Pakistan, mais avant, il y a l'Afghanistan, d'ailleurs, mais qui n'existe pas encore.
Qui est un couloir, en fait.
Voilà, qui est un couloir vers l'accès vers les mers chaudes.
Qui a permis à Alexandre le Grand d'aller jusqu'en Inde.
C'est ça. Et pour pouvoir y accéder, en fait, on se dit qu'il va y avoir une confrontation au moment entre les Britanniques et les Russes. Ils vont un moment se faire la guerre. Mais la diplomatie, le rapport de force fait qu'il y a un statu quo qui se met en place, notamment apparemment vers l'Afghanistan actuel. Et l'Afghanistan est donc une création, l'État afghan, et la création de ce rapport, et une création d'un État lié à ce rapport de force. C'est en gros, c'est une zone tampon, un État tampon, qui a été là pour délimiter la zone d'influence russe versus la zone d'influence britannique. Et donc, l'Afghanistan s'est créé. En plus, c'est une zone tampon qui a rangé et les Russes et les Britanniques, parce qu'ils avaient énormément de mal à coloniser cet État. Encore une fois, on connaît le peuple afghan et la résistance qu'il opère au travers des siècles.
Mmh, voilà,
c'est aussi une géographie très difficile. C'est des montagnes, c'est des conditions de vie. On n'envahit pas un pays comme ça aussi facilement. Donc, ça a été la zone tampon parfaite qui s'est faite. Et comme l'histoire a pu le montrer, on a pris une carte, on a fait une frontière avec un coup de crayon et c'est tombé. Voilà, c'est l'Afghanistan qui d'ailleurs n'a pas d'accès à la mer.
Non.
Voilà, il n'y a pas d'accès à la mer, c'est un État complètement enclavé et qui est un État tampon qui permet de contrecarrer donc dans ce grand jeu qui était le terme utilisé pour la rivalité russe-britannique.
Alors, cette théorie de l'État pivot, ça a donné le Rumland.
Oui, alors le Rimland.
Rimland, pardon, page 51. Mm. Et on peut expliquer la guerre froide et la théorie de Kinnan. Ce sera la dernière chose avant qu'on ait une pause et la dernière partie d'accord. de notre émission.
Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un autre théoricien qui a vu ce qu'a fait Mackinder, mais qui a beaucoup... Parce que Mackinder, en fait, c'est assez... c'est des théories assez déterministes, c'est pas très poussé. Et on a Nicolas Spijkman, qui est un Hollandais qui a surtout fait ses études aux États-Unis. Et lui pense que cette histoire de pivot, c'est ridicule. Et le Heartland, et lui, il développe une autre théorie qui s'appelle le Rimland, R-I-M, comme la jante d'une voiture.
Voilà.
Ça ne sert à rien pour lui de contrôler cette Russie. C'est ce qui compte, c'est la périphérie. Donc c'est comme la jante de la voiture, c'est le Rimland. Et on retrouve donc Kinnan, qui a développé, qui était un diplomate, parce qu'il est mort assez jeune, il est mort en 43-44, Spijkman, et c'est à ce moment-là où Kinnan développe le containment, la théorie de l'endiguement. C'est-à-dire que lui, il a envoyé un télégraphe qui était assez connu en disant, faut pas oublier quand même que les États-Unis et l'Empire soviétique, pendant la Seconde Guerre mondiale, étaient alliés à la fin.
Oui.
Mais très rapidement, ils se sont dit... On va pas être potes, on va pas être amis, ça va pas le faire du tout.
Ouais.
Et Kinnan, qui est un diplomate en Russie, leur dit, il y aura aucune conciliation possible entre un modèle communiste et un modèle capitaliste. C'est pas possible. Donc, c'est des ennemis. Comme on va pas leur faire la guerre, frontalement, il faut contrôler les endiguer, donc contrôler les encercler. Donc, ça va passer par l'Europe de l'Est, le morcellement de l'Europe de l'Est, le plan Marshall sur l'Europe occidentale. Mm-hmm. Ça va passer par, par le contrôle de toute la périphérie qui va créer donc, la guerre. Enfin, ça aura des conséquences sur le contrôle de la Corée, du Vietnam, avec tout ce qu'ils ont appelé la théorie des dominos, qui faisait très peur aux Américains. Et c'est ce qui permet aussi d'expliquer pourquoi, juste après la première guerre la Deuxième Guerre mondiale, qu'est-ce que vont aller s'embêter. D'ailleurs, même, Staline, à l'époque, pensait pas que les Américains seraient intervenus en Corée. Pourquoi ils seraient allés s'embêter sur un petit bout de terre d'Asie comme ça? Quel est l'intérêt? Et en fait, non, c'est que les Américains voulaient endiguer
le communisme,
l'Union soviétique.
Dans cette théorie-là, quel rôle passif était donné à la Chine?
Alors, la Chine, c'est encore une époque où ils n'ont pas rompu avec le grand frère soviétique, l'URSS. Mmh. Donc, typiquement, eux, ils ont tout de suite soutenu la Corée du Nord, même militairement, en envoyant des soldats. Alors, pas officiellement, mais ils envoyaient des soldats, des armes. Et donc, ils rentraient, eux, pour appuyer le côté soviétique. Donc, sur la guerre du Vietnam, ça sera un peu différent, parce que les Chinois, au bout d'un moment, vont vouloir faire la guerre aux Vietnamiens. Mmh. Et de la même façon que cette théorie des dominos, en fait, qui était basée sur une vision très simpliste des choses, ou en pensant que, par exemple, deux pouvoirs communistes sont forcément amis. Ce qui était faux, parce que les Vietnamiens ont fait la guerre aux Chinois, les Vietnamiens ont fait la guerre aux Cambodgiens, qui étaient des pouvoirs aussi communistes, parce que résumer des rapports de force uniquement liés, basés sur des idéologies de façon assez, assez caricaturale, en fait, c'est aussi oublier que des États, des populations ne sont pas uniquement enfermés dans une idéologie, mais qui peuvent, ils se font la guerre, ils se font des alliances, il y a des alliances de circonstances aussi. Hein. Donc voilà.
Bien. Donc, on va en rester sur la guerre du Vietnam, parce que intervient un homme, pas n'importe lequel, Yves Lacoste. Et ça va être le début de notre troisième partie. On va demander à Jean-Michel une pause musicale et on va commencer par Yves Lacoste.
Je suis dans le métro et dans la rame, ça pue. Et un crackman qui demande des thunes. Tout est ratable, mais putain, quelle chute. Un genou à terre, quel but apparent. Les yeux blancs, lune. Je te donnerai même pas 10 cents, t'es sans rancune. Des fois je me dis y'a des mondes parallèles où le beau gosse c'est Gargamel. Où y'a pas que des noirs et des arabes, clic et farette. On pourrait vendre encore plus de drogue. Merde, je vais donner des voix au RN. Ça met du temps à prendre, c'est pas du rap de collégienne. J'ai que du son avant, ils savent, c'est du chon. Alors ils font leur jeu de séduction. Les frérots sont prêts à me suivre, même s'il faut sauter du pont. Personne va se barrer sans préavis. Septième sous-sol posé avec une pointe devant une nappe phréatique. Le centre de la terre, c'est ma bite, tu pues la merde. T'y arriveras pas, même si tu suces toute la ville. Peut-être si tu bosses toute la nuit. Je voulais des filles douces, mais j'ai fourré des grosses putes qui avaient le nez qui coule. Je te parle pas d'amour, elle voulait des ristournes. Y'a pas de cours, y'a pas d'Aznavour, elle se retourne et je la fourre. Je rentre à la tour en Uber. J'ouvre le litron au cutter et je finis en freestyle dans le hall avec 5 auditeurs. Monte dans la sainte audisseur, cône et liqueur. J'aurai ton corps, l'onne liqueur. Donne à ce pauvre niqueur. Je sais pas, je suis dans quel mood. Y'a mes affaires dehors, il faut qu'elle move. Je récupère mes plaques et je bouge. J'ai une nouvelle tasse, elle est cool. Elle a la classe. Même en Air Force, basket courte. Elle a les genoux pliés dans l'autre sens. Elle me demande de la thune en marchant sur ses creux de jambes. T'auras pas 10 cents. Je viens pas de Paris, je viens de la Saint-Denis-Seine. Y'a des artistes et le métro comme à Saint-Michel. Sauf que les rues sont remplies de mégots et que c'est possible les petites tabasques. Tu retrouves ton gosse avec une pipe à crack. Tout le monde veut se faire la malle. C'est pas avec ce qu'on bosse qu'on aura la maille. Alors y'en a qui mettent le colt à la taille. L'important c'est de faire toute une vie à mettre des coups de pompe dans des portes mes fers. Peu importe où je tombe, je porte mes chaînes. Peu importe où je tombe. J'écoute pas leur salade de proxénète. J'suis là pour le gros bénéf. H24 dev, jamais content. Mauvais élève, j'perds mon temps. Je veux pas être avec les chefs. Je veux rester dans mon camp. Même s'il y a pas de victoire prévue avant longtemps. J'envoie à volonté comme chez le chinois. Des denrées impérissables, j'ai de secouer comme le pékinois dans mes lignes plaques. Rentre chez moi, j'dors à côté du tiroir où j'ai mis l'arme. Y'a des darons qui vont lâcher mille larmes. J'verra comme un ronin, bientôt y'aura des steadicams. Gros morceau sans refrain, parce que j'm'en bats les reins. Comme quand j'en avais 20, j'suis loin de l'aller simple. J'dois encore me salir les mains. Elle toque à ma fenêtre dans ses bras et tient un nourrisson. T'auras pas de sense, tiens la fin de ma boisson. J'flingue à foison. y'a personne qui s'en plaint. Personne. Elle fume du crack, elle est enceinte. Je me demande qui est le fils de pute qui lui vend sa dose. Est-ce qu'il double le prix ou est-ce que le bébé fume gratuit? Putain, la vie c'est pas rose, c'est béton tout gris, dur comme du hache pourri, y'a trop de monde à secourir.
Chers auditeurs de Pas de Quartier, l'émission du groupe Louise Michel sur Radio Libertaire, 89.4 FM en région parisienne et sur le net pour le reste du monde. Nous sommes dans la troisième et dernière partie de l'émission avec Vincent Piollier pour sa BD Géopolitique, Histoire et Théorie. Alors, Vincent, la guerre du Vietnam et Yves Lacoste. Oui. Plus exactement, les bombardements
Des digues du fleuve Rouge.
Voilà.
Alors, c'est juste, à l'époque, ça c'est j'ai parlé de ça pour recontextualiser un peu Yves Lacoste, parce que Yves Lacoste, il n'arrive pas dans les théories géopolitiques. En fait, c'est un géographe, déjà. Et au sortir de la Seconde Guerre mondiale, la notion de géopolitique, le mot géopolitique est très connoté. Alors, on n'en a pas parlé, mais c'est quand même une science, enfin, pas une science, encore une fois, pardon. C'est un... Enfin, pour eux, les Allemands le prennent pour une science, qui a été beaucoup développé par les pan-germanistes. Les pan-germanistes, jusqu'à des théories racialistes, jusqu'à... Les nazis étaient férus de géopolitique. C'est-à-dire que dans les années 20, la géopolitique est enseignée aux enfants dans les écoles. Mais la géopolitique avec un K, c'est quelque chose de très important, tout le monde en parle, il y a des revues, donc il y a un penseur, un théoricien, il y a Haushofer, voilà, qui le développe. Et quand on arrive après la Seconde Guerre mondiale, ce qu'il faut voir, c'est qu'après, même la géopolitique est interdite d'être enseignée en Allemagne. Staline l'interdit aussi, par exemple, parce que pour lui, c'est une science de nazi. Voilà. Et en France, alors les Américains, si vous vous souvenez, avec Spikeman, l'endiguement et tout, on a à peu près au même moment, c'est un peu le seul qui continue un peu à écrire dessus. Mais en France, pareil, c'est quelque chose qui a très mauvaise presse. C'est la géopolitique, ça a permis de justifier les pires atrocités, et c'est quelque chose qui est très attaché donc à l'Allemagne nazie. Sauf que Lacoste, lui, donc connaît toute cette histoire. Et par contre, là, on rentre dans une nouvelle époque qui est l'ère de la décolonisation. Et notamment.
Qu'est-ce qu'il est, Lacoste ?
Alors, Yves Lacoste, c'est quelqu'un. Il est né en 29. C'est un géographe qui enseigne d'abord. Il enseigne en Algérie. Il est très intéressé par la décolonisation en Algérie. Il part au Vietnam parce que faire une enquête et il se rend compte que l'armée américaine bombarde les digues du fleuve Rouge, mais bombarde pas pile sur les digues, mais un petit peu à côté. Comme ça, la prochaine crue, ça va, les digues vont exploser et ça va noyer des millions de gens. C'est vraiment un peu l'équivalent d'utiliser vraiment une bombe sale. Et c'est ce qui va faire sa notoriété, c'est-à-dire que son enquête, le pouvoir vietnamien va le prendre, mais ça sera aussi confirmé par toute la presse, jusqu'à Paris Match qui le reprend, le pape qui en a parlé. Et donc la notoriété d'Yves Lacoste commence là, avec des articles dans Le Monde, etc. Et donc il a une espèce, voilà, il a une grande notoriété. C'est une époque où il enseigne à Paris 8, juste après l'expérience de l'Université Nouvelle à Vincennes, qui part après à Saint-Denis, où on a donc des méthodes un petit peu, voilà, c'est l'ébullition en termes de recherche. Et lui, il va reprendre la géopolitique, mais donc pour définir le concept des représentations que j'ai expliqué, c'est-à-dire, il va nettoyer tout l'héritage, la mauvaise réputation, l'héritage nazi, il va reprendre le terme, il va le redéfinir, donc comme comme l'étude des rapports de force sur un territoire entre différents acteurs, c'est sa définition de la géopolitique. Et il va complètement réorienter ça donc en fonction des représentations. Il va prendre aussi le concept, il va faire intervenir la cartographie avec la notion de diatope. Alors les diatopes, c'est-à-dire la vision d'une échelle à plusieurs échelles. Par exemple, on peut faire de la géopolitique sur... par exemple, si on prend le cas, voilà, on va prendre le conflit en Palestine. Il y a des enjeux, des acteurs, des rapports de force qui peuvent se jouer sur une ville, sur quelques rues, et on recule la focale. Ça peut être entre deux États, ça peut être régional, ça peut être le Moyen-Orient, et ça peut aussi impliquer l'Europe, ça peut être mondial. Donc, il y a plusieurs échelles, et c'est ce qu'il appelle des diatopes. Et à chaque fois... une couverture peut en recouvrir une autre et on voit les rapports de force qui se superposent, parfois qui ne se superposent pas. Pourquoi, par exemple, les États-Unis ont un intérêt dans le conflit israélo-palestinien. Quand on regarde une carte géographique, bah, ça ne fait pas sens forcément au premier abord. On voit deux territoires qui sont à l'opposé. C'est pour ça qu'il faut faire rentrer en compte le concept des représentations, qui est que un territoire, c'est pas sa position géographique qui va lui donner sa valeur, c'est plutôt l'idée que se font les gens de ce territoire et l'histoire qu'ils ont incorporée, etc., qui vont les rendre comme ça un peu en mouvement. Bon. Et donc lui, il remet tout ça, et maintenant, je pense que plus personne ne sait que la géopolitique était liée voilà, au nazisme, etc. Au bout d'un moment, que ça avait très mauvaise réputation dans les années 50, même 60. Et depuis les années 70, maintenant, ça a été complètement nettoyé.
Et, excuse-moi, quelle est l'idée derrière la tête des Américains en faisant d'Israël un centre hyper armé là, c'est vraiment... On s'en doute géopolitique, mais de quelle façon exactement?
Alors là, on va reprendre donc les représentations. C'est l'exemple que je reprends dans sa BD. C'est-à-dire que... et on reprend aussi un peu l'idée de la destinée manifeste.
Voilà.
C'est-à-dire qu'il y a... On repart dans une vision du monde qui est très messianique. C'est-à-dire que... et d'ailleurs, c'est très paradoxal. Donc là, on va prendre le conflit israélo-palestinien avec une échelle très petite, c'est-à-dire la focale américaine. Comment des Américains vont s'intéresser à ça? Beaucoup d'évangélistes pensent que la réalisation du projet sioniste, c'est-à-dire le retour du Nil à l'Euphrate, enfin... les possessions du territoire du Nil à l'Euphrate du peuple juif permettra l'avènement, le retour du Christ sur Terre. C'est une vision donc messianique. Et donc, c'est pour ça que on a ce qu'on appelle le sionisme chrétien. Mmh. Et paradoxalement, ils sont antisémites. C'est ça qui est un peu tordu.
Il faut le faire, oui.
Oui, il faut le faire parce que quand le Christ va arriver, il va punir les Juifs. C'est toute la rhétorique du peuple déicide. Mmh. Il va les punir, ils iront en enfer, etc.
S'ils ne se convertissent pas.
Voilà, c'est ça. Et donc, c'est vraiment la vision millénariste, le jugement dernier qui arrive. Et ce qui est intéressant, c'est l'alliance de circonstances, c'est-à-dire qu'on a quand même eu des pasteurs évangélistes antisémites aux États-Unis, disaient les pires atrocités sur le peuple juif aux États-Unis, et ils ont été invités par le pouvoir israélien pour bénir l'ambassade américaine à Jérusalem. Quand Trump a dit OK pour reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël, ils ont déplacé l'ambassade américaine, ils l'ont mis à Jérusalem, et on avait donc des antisémites qui bénissaient l'ambassade, etc. Ça posait pas de problème. Au pouvoir israélien. Pourquoi? Parce que c'est une alliance de circonstances pour eux. Parce que, alors là, on retourne dans une autre représentation qui est que l'accomplissement du Nil à l'Euphrate du territoire israélien, ça ne va pas faire revenir le Christ pour eux. Mais un autre Messie, ça va être parce que les Juifs ne reconnaissent pas le Christ comme le Messie. Donc, la petite blague que je fais, c'est le jour du jugement dernier... Il y aura
tellement de messies.
Il y aura alors
il y aura une notice.
Il y en a un qui va dire est-ce que c'est la deuxième fois que vous venez ou est-ce que c'est la première fois? Si c'est la deuxième fois, bon bah c'est les chrétiens qui ont gagné. Si c'est la première fois, c'est les juifs qui ont gagné. Donc mais là il y a une alliance de circonstances parce que les deux veulent l'accomplissement de cette vision millénariste, de cette prophétie en fait. Ils attendent le jugement dernier. Et c'est pour ça qu'ils financent, les sionistes chrétiens vont financer... parce qu'après, ils ouvrent la Bible, et c'est vraiment pas le guide du routard, mais presque, c'est telle partie géographique, telle ville, telle colline, parce que c'est une description très géographique, la Bible, en fait, de la Palestine. C'est les points d'eau, les montagnes, les vallées. Et quand vous aurez recréé tout ça, on aura l'accomplissement qui arrivera.
Franchement, tu ne penses pas que... C'est bien beau, toutes ces histoires de Messie, mais...
Ça, c'est des représentations. On enlève l'aspect économique.
Ça me semble peut-être que ça a joué, mais j'imagine plus un avant-poste en Israël avec des armes américaines pour peut-être se méfier des Émirats ou des puissances pétrolières.
Alors, c'est oublier l'amour de Roosevelt pour les Saouds. Tu l'as bien expliqué dans ta BD. Eh oui, c'est pas si simple.
Oui, non, je pense pas que les Américains, ça soit... Bon, les Saoudiens, c'est pas... ils cherchaient à faire une alliance avec eux, d'ailleurs. Ils voulaient conclure les accords d'Abraham entre Israël et l'Arabie Saoudite.
Ouais.
Sauf que l'Arabie Saoudite demandait un accord de défense militaire un peu comme Taïwan, c'est-à-dire... d'accord, on signe les accords d'Abraham, mais on veut une défense, vous nous défendez coûte que coûte, quoi qu'il arrive, notamment contre l'Iran. Donc ça, c'était déjà difficile à obtenir, mais c'est surtout que les Saoudiens voulaient aussi que les Américains soient OK pour qu'ils accèdent à la technologie du nucléaire civil. Mmh. Et là, il y a toute une partie du Congrès qui était contre, etc. D'accord. Donc ça, c'était la contrepartie des accords d'Abraham pour les Saoudiens, pour reconnaître l'État d'Israël. Alors après, il y a là, ce que je disais sur les aspects religieux, c'était pour illustrer le concept des représentations de Lacoste. Parce que bien entendu, il y a d'autres, dans le rapport de force, il y a d'autres enjeux économiques, militaires, qui font que les Américains vont aussi soutenir, même ça peut être électoraliste, ça peut être... Il y a d'autres critères qui rentrent. Être une tête de pont des Américains, peut-être. Après, ce qu'il faut voir, ça aussi, en géopolitique, on se méfie beaucoup. Et on le voit à l'inverse, en pensant, par exemple, que le Hamas est instrumentalisé par l'Iran. En fait, c'est de croire que les acteurs sont complètement des marionnettes et téléguidés. C'est-à-dire, ils ont une certaine autonomie d'action. Par exemple, quand le Hamas, même s'il a eu des armes et qu'il est financé par l'Iran, c'est pas l'Iran qui appuie comme ça sur un bouton dans une salle secrète. Il appuie bouton Hamas et ça part. Et les États-Unis vont pas dicter non plus, même s'ils financent militairement par plusieurs milliards l'armée israélienne, etc. Les acteurs ont aussi leurs propres autonomies. D'ailleurs, c'est ce qui fait que la géopolitique n'est pas non plus une science, parce que sinon, il suffirait d'avoir un jeu d'échecs, là, et on appuierait sur des boutons, ça serait...
Ouais.
Voilà. Donc c'est pour ça que même la notion de proxy, la guerre de proxy, comme on dit souvent en géopolitique, c'est-à-dire penser que tel groupe politique va uniquement intervenir en fonction de certains intérêts, ça, l'histoire montre que c'est assez limité, en fait.
Bien. Alors, la théorie de Yves Lacoste sur un autre conflit, pas de moindre, celui de l'Ukraine.
Alors là, c'est pas Yves Lacoste, là, c'est Brzezinski.
Ah oui, pardon.
Alors là, c'en a un autre encore. Alors, c'est...
D'où les théories des échecs.
Voilà, voilà, c'est les échecs, oui. Lui, il a écrit Le Grand Échiquier.
Voilà, en 1997.
Voilà, mais alors là, on revient sur une autre théorie donc différente, qui est... Alors, Brzezinski, il faut recontextualiser ça. Là, on est dans les années 90. Chute du mur de Berlin. Effondrement donc du communisme en Russie. Et il y a un retour en force, on va dire, de ce qu'on appelle l'eurasisme, qui est une notion... Alors, on en entend parler là, avec le conflit avec l'Ukraine, l'eurasisme, Poutine, qui a comme ça un projet de conquête impériale, etc. Mais c'est une notion, en fait, qui est très ancienne. C'est-à-dire que la Russie s'est toujours aussi positionnée... Alors, on doit refaire un petit retour en arrière, mais moitié du 19e siècle.
Page 91.
Voilà, hein. Qui a toujours été tiraillée entre l'Orient et l'Occident. C'est-à-dire, ils ne se sentent pas, un moment, plusieurs intellectuels russes ont dit, en fait, d'ailleurs ça lui a valu pas mal de problèmes vis-à-vis du Tsar, c'est-à-dire, où on est européen, où on est orientaux, mais on ne peut pas être au milieu, on ne peut pas être... Sinon, en fait, ils disaient, même certains intellectuels russes se pensaient même arriérés, même en disant, culturellement, on est un peu des sauvages. Ça a vexé, forcément, une autre partie de l'intelligentsia russe, et notamment, ça a développé tout le panslavisme, qui a été sur l'identité slave. Et, comme d'habitude, ce type de nationalisme a fait émerger des théories géopolitiques, qui a été donc l'eurasisme, et qui a été de positionner de la même façon, avec une certaine vision encore... millénarisme, mais cette fois-ci basé sur les chrétiens orthodoxes, en pensant que la Russie avait une destinée très particulière qui se jouait pas du tout dans le libéralisme occidental, qui se jouait pas du tout dans le communisme, et qui se jouait plutôt sur une notion beaucoup plus culturelle. D'ailleurs, ils ont pas le concept d'État-nation, ça leur parle pas du tout. Ils sont plutôt... sur des valeurs, par exemple, le modèle qui a beaucoup influencé les grands auteurs de l'eurasisme, ça a été le fascisme italien. C'est le pouvoir autoritaire, c'est valoriser donc l'autorité, la force, et pas valoriser l'individu, mais valoriser la cohésion nationale, voilà, valoriser le groupe au détriment de l'individu, mais le groupe au sens culturel. Donc ça a donné lieu à cette idée, donc l'eurasisme. D'ailleurs, un des exemples, l'auteur qui a le plus repris ces théories, c'est Alexandre Dugin, je ne sais pas si vous nous avez entendu parler, qui est un auteur, on dit qu'il a l'oreille de Poutine, mais là je pense que c'est beaucoup de fantasmes. C'est quelqu'un qui a plutôt l'oreille du grand public russe, surtout des militaires russes, qui a beaucoup, alors dans des lectures qui n'ont pas été traduites en français, mais il y a quelques textes qui ont été traduits, on repart dans beaucoup d'ésotérisme plutôt donc eurasiste, russe, et sa fille a été tuée, plastiquée, enfin sa voiture a explosé, voilà. Des services, alors on ne sait pas qui.
Si c'est les Ukrainiens,
voilà,
ou si
les Ukrainiens, la CIA, voilà, on ne sait pas trop, mais qui ont fait un attentat, qui ont fait exploser la voiture de Alexandre Dugin, sauf que pas de chance.
C'était
sa fille, mais qui partageait aussi ses idées, qui est sur les plateaux télé, qui est quand même
c'était
son bras droit, ok, voilà. Qui est morte, lui il vit toujours, mais il va alimenter lui les représentations russes et qui va permettre la justification donc de cette idée que l'Ukraine, qui est la Russe de Kiev, qui est le foyer nationaliste de l'identité russe, parce que il faut voir que Moscou ça n'a pas été pas du tout la capitale ou un territoire russe évident au départ, hein. Même avant Saint-Pétersbourg ça a été aussi l'Ukraine, ce qu'on appelait la Russe de Kiev. Et qui doit aussi aller de faire un espèce de croissant sur les bords de la mer Noire, qui doit remonter jusqu'à la Moldavie même. Où on a un territoire en Moldavie qui s'appelle la Transnistrie, qui est un territoire inféodé à la Russie. Et donc, il y a ce projet politique qui serait comme ça, un projet impérialiste, qui serait comme ça, de s'étendre sur l'Ukraine, en utilisant, encore une fois, des représentations. Alors là, Brzezinski, lui, après, il parle du grand jeu, où il parle d'État acteur, d'État pivot, où les États-Unis, voilà, ne peuvent pas se désengager de cette zone-là, parce que s'ils se désengagent de cette zone-là, notamment via le soutien à l'Europe de l'Est, c'est un glacis qui explose, en fait. C'est libre... libre l'eurasisme à déferler comme ça sur toute l'Europe, mais pas que sur l'Europe, ça pourra aussi aller vers la Chine, vers l'Iran, vers d'autres territoires. Et donc il a écrit Le Grand Échiquier, Brzezinski, où il essaye de théoriser un petit peu le rôle de chaque État, et ce qui est intéressant, c'est que dès les années 90-2000, il fait des pages et des pages sur l'Ukraine, en disant que c'est la conquête impériale russe, c'est s'attaquer à l'Ukraine, c'est l'État pivot, parce que déjà, c'est un État qui permet un accès sur la mer Noire, c'est un État qui a beaucoup de ressources pour le blé, là on le voit avec les importations de blé où il y a un embargo, c'est un État qui est très important, et ce qui est intéressant, c'est qu'il en parle à un moment, dans les années 90, où il y a eu la chute du mur de Berlin, on est dans le choc des civilisations avec Huntington, etc., donc il passe un peu... pas sous les radars, parce que les gens qui s'intéressent, c'est quelqu'un qui a une grande influence, même auprès de Barack Obama, tous les présidents à partir de Carter jusqu'à Obama, après il est mort dans les années 2010, mais qui a toujours ramené les Américains avec la petite lumière, attention les Russes, attention les Russes. Il était tout le temps là pour leur dire, vous allez au Moyen-Orient là actuellement, mais attention à l'eurasisme, attention à l'eurasisme. Et ce qu'on voit, c'est ce qu'il a écrit sur l'Ukraine, vous pouvez le lire maintenant, je crois que je fais des citations dans la BD, c'est en gros, c'est on voit la recette de cuisine de il faut envahir l'Ukraine, etc., etc.
Alors, pour information, nous avions reçu l'ambassadeur de France, l'ancien ambassadeur de France en Russie, Claude Blanchemaison, pour son livre Vivre avec Poutine. Et à l'époque où on l'avait reçu, il avait pronostiqué un conflit majeur avec l'Ukraine. Claude Blanchemaison avait été mis à la retraite parce que ça n'intéressait personne et les Français n'y croyaient pas. Ils y croyaient tellement pas que même quand il y a eu l'invasion de l'Ukraine, ils étaient les derniers, ils étaient vraiment surpris. Donc vous pouvez réécouter l'émission sur le site du groupe Louise Michel. Ça s'appelle Vivre avec Poutine et l'invité était Claude Blanche-Maison. C'est dans les 5 dernières minutes où il explique bien le conflit ukrainien à venir. Donc, merci pour l'Ukraine. Je voudrais qu'on revienne sur la définition de la géopolitique aujourd'hui.
D'accord.
Elle est page 100.
Je vérifie. Hein,
ah oui, tu vérifies.
Tu les as lus. C'est parce que tu as lu le livre.
Ah bah,
oui. Bravo.
Ah oui, c'est quand je reviens, je fais un petit peu ma petite conclusion.
Voilà.
Oui, ouais. Voilà. C'est que je précise que sur voilà les discours scientifiques, bon, forcément, faut s'en méfier. Surtout que souvent sur les plateaux de télévision actuellement, on a une vision géopolitique très déterministe. Hein. C'est très culturel. C'est le bien, le mal. On n'a pas eu le temps de parler des néoconservateurs, mais
si,
c'est que
on
ça.
A le
c'est
temps, on
c'est
a très. Le temps,
c'est
on a le temps.
C'est aussi basé beaucoup sur la sémantique, c'est-à-dire. Quand on le retrouve typiquement actuellement, quand vous regardez les plateaux de télévision, si vous avez quelqu'un qui commence à vouloir vous parler sur le conflit israélo-palestinien des représentations, on va lui dire « mais vous tentez de justifier, c'est le fameux « tenter d'expliquer, c'est forcément
oui.
prendre…
» Expliquer, voilà. c'est admettre.
Voilà, et, voilà il disait, c'était quoi, c'était Valls, il disait « expliquer, c'est pardonner » ou des trucs comme ça, quoi. En gros…
C'est très manichéen, comme tout ce que font les politiciens.
Les néoconservateurs sont très manichéens, c'est-à-dire ils ont une vision du bien et du mal, indépendamment de... En fait, il n'y a pas d'histoire. L'histoire ne compte pas, c'est une vision morale des événements. Donc il y a les méchants, il y a les gentils. Ça peut paraître très simpliste comme ça, mais c'est ce qu'on voit tous les jours, où on doit montrer patte blanche, qu'il faut condamner ci, condamner ça. Si vous utilisez tel mot, mais c'est tel mot, ça veut dire ci. Donc on s'en sort plus, et ça finit par l'absence, en fait, de toute analyse. Et si quelqu'un veut, par exemple, alors en plus c'est difficile sur un plateau télé en 5 minutes, de rentrer dans ces considérations-là. Donc, on va finir par dire les méchants sont méchants parce qu'ils ont fait des choses méchantes et les gentils sont gentils parce qu'ils ont fait des choses gentilles. Et l'analyse s'arrête là, en fait. Parce qu'on a aussi une vision, la vision néoconservatrice qu'a développée Samuel Huntington, qui a été de découper le monde en aires civilisationnelles. Et la doctrine Bush, qui l'a reprise et qui maintenant même impacte les politiques françaises même, qui va être de dire... indépendamment des aires civilisationnelles, il y en a même qui n'ont même pas le droit au titre de civilisation. Mmh. Et Bush l'a dit expressément, a dit l'Iran, la Corée du Nord, et tout, eux, ce sont des barbares. Donc à partir du moment où vous justifiez ça par ce sont des barbares, on retombe dans les théories déterministes qui étaient faites par les Allemands, et qui étaient faites aussi par les discours pour ceux qui voulaient coloniser des territoires. À partir du moment où vous leur niez même une identité culturelle, qu'on soit d'accord, pas d'accord, etc., là on peut débattre infiniment, mais vous leur niez même tout ça, vous en faites juste des animaux, des bêtes, des barbares, on peut justifier d'aller les tuer, parce que juste, ils sont méchants. Ils sont méchants, on les tue. Donc, vous leur niez leur intérêt culturel. Et en plus, face à ça, vous avez des gens qui vont être encore plus... qui vont être niés dans leur identité. Ça va encore plus alimenter leur volonté de répondre, etc. Mais ça, c'est ce qu'on voit typiquement actuellement... Où je pense que l'analyse des représentations gagnerait beaucoup sur les plateaux de télévision au détriment des espèces d'analyses uniquement stricto sensu morales qui sont très néoconservateurs, en fait.
Alors, de toute façon, il n'y a pas que les Américains. On a un président français.
Oui, qui a cette vision néoconservatrice des relations internationales.
Qui est allé dans
plus.
Une université, qui n'avait pas un nom banal, chez Conta Diop, pour l'université, et qui a déclaré que l'homme noir n'était pas rentré dans l'histoire. Nicolas Sarkozy, pour ne pas le citer.
Ah oui,
donc,
Dakar.
Voilà. Oui. Donc, tout est dit. Donc, la géopolitique, c'est la conclusion.
Oui, la petite conclusion. Alors, donc, c'est pour dire que. Tous ceux qui parlent de science, faut s'en méfier. Hein,
voilà.
C'est pas une science, c'est une méthode de travail qui convoque, qui permet d'analyser les luttes de pouvoir entre différents acteurs. Donc bien entendu, on utilise la géographie, mais on peut aussi convoquer et surtout, on doit convoquer l'histoire, la sociologie, l'économie pour comprendre en fait qu'est-ce qui alimente ces rapports de force entre acteurs pour un territoire. Donc on reprend un peu cette recette de cuisine et c'est une méthode de travail. Et c'est une grille de lecture qui permet, si on prend des étudiants, ça permet aussi d'agencer une réflexion, une analyse, mais même au niveau professionnel. Si vous voulez comprendre un pays, un État, une population, il faut en passer par là à un moment donné. Il faut établir une certaine de méthodologie, une grille de lecture pour un petit peu comprendre tout ça, quoi.
Alors, je vais revenir au livre qui est... Il coûte 18 euros pour un travail fantastique. Je trouve que c'est vraiment donné. Voilà. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est qu'à la fin de la BD, tu donnes une bio de chaque intervenant. Hérodote, Ratzel...
Une bio de... parce que je me dis, voilà, s'il y a des étudiants qui veulent aller plus loin, il y a la bio de chacun, mais aussi la bibliographie. Parce qu'il y a pas mal de livres qui n'ont pas forcément été traduits. Ils ne sont pas forcément évidents parfois à retrouver, ou un petit peu à savoir si on veut aller plus loin, quelques titres de livres.
Voilà. Et surtout, ce que j'ai trouvé passionnant, c'est, si vous avez aimé Géopolitique, c'est mon cas, j'ai adoré, il y a à la fin certains livres, et il y en a un que je vais acheter pour Noël, c'est Anna Politkovskaya, journaliste dissidente de Elisabetta Benfato et Francesco Mattesi. Voilà. Il faut savoir qu'on a appris hier que l'un de ses assassins a été gracié par Poutine parce qu'il avait combattu en Ukraine. Donc la boucle est bouclée. Parce que beaucoup de personnes ont été sorties de prison par Wagner, par le chef Wagner.
On parle de l'assassin de qui, là?
De la journaliste, Politkovskaya.
Ah oui, d'accord.
Ils devaient combattre un certain temps en Ukraine, et s'ils revenaient vivants, ils étaient graciés. Et bien, cet assassin, un de ces assassins...
C'est une espèce d'ordali à la russe.
Tout à fait. A été gracié. Donc, je me mets à la place de la famille et de ses deux enfants.
Ouais. D'accord.
Voilà. Donc, alors, pour en revenir à Géopolitique, Histoire et Théorie... Donc, chez Stenkis, aux éditions Stenkis, c'est Vincent Piollet et Nicolas Gobi. Alors, pour ceux qui sont fidèles de Pas de Quartier, ils ont reconnu ton nom, on t'avait reçu il y a quelque temps de cela, pour une superbe émission où je me suis illustrée dans mes goûts, je me suis remis au goût du jour sur le...
Sur le rap.
Voilà. Alors, quelques mots sur le rap.
Oui, non, parce que j'écris beaucoup de livres sur l'histoire du rap, mais alors là, on n'est plus du tout dans
la géopolitique. Non, mais ça
c'est lié à, voilà, je faisais de la radio, là je suis dans les studios Radio Libertaire, mais je faisais de la radio à Radio Campus à Bordeaux, où j'animais une émission sur le rap avec pas mal d'invités, et j'ai écrit pas mal de livres sur son histoire. Là, c'est plutôt... c'est un autre enjeu pour moi, là, c'est pouvoir... légitimer cette culture qui est souvent déconsidérée, comme toute culture populaire d'ailleurs, qui est souvent déconsidérée, et moi je la trouve intéressante déjà musicalement, c'est important, mais aussi l'histoire, et l'histoire de ces acteurs en fait qui est super intéressante, surtout alors beaucoup rap français, mais bon, j'essaie aussi un peu d'écrire sur le rap américain, faire un peu de critique, etc. Mais là, c'est l'aspect musical.
Est-ce que tu pourrais donner le nom de tes deux livres?
Alors, le premier, c'était Regarde ta jeunesse dans les yeux, naissance du hip-hop français.
Il est quasiment épuisé, il est très rare de l'obtenir.
Ah bon? Moi, je pense que je vais appeler mon éditeur quand même.
Oui. Moi, j'ai regardé la cote des livres avant de venir dans l'émission. Il est très difficile de l'obtenir.
Ouais, pourtant, je sais que celui-là, il a été important parce que c'était le premier livre qui documente les débuts du hip-hop français, en fait. Il n'y en avait pas avant. Et j'avais vu une centaine de personnes, ça m'avait pris des années. Après, j'avais fait Dans la fièvre du suprême, c'était une biographie sur NTM, très axée sur le phénomène artistique, les labels, la musique, etc. Et puis, j'avais écrit tous les textes de l'exposition à la Philharmonie Hip-Hop 360.
Pour laquelle on t'avait invité.
Voilà, et j'avais sorti le livre où j'avais fait les portraits de 20 personnes sur 40 ans. L'histoire de 20 personnes du hip-hop français, quoi. Donc, allant de, bien entendu, des rappeurs, mais pas mal de producteurs, des breakers, des graffeurs, des DJ, il y avait un beatboxer, il y avait même des gens qui font des clips, il y avait un peu de tout.
Alors, l'émission, on peut la réécouter sur le site du groupe Louise Michel. Donc, adresse du site du groupe Louise Michel, c'est Louise, groupe-du-6, Louise-du-6, Michel.org. Et il faut choisir l'émission Pas de Quartier. Voilà, et vous revenez en arrière.
C'est un petit transistor, le logo.
Voilà, tout à fait.
Il y a un petit transistor, pour ceux qui ont connu le transistor, parce que c'est un truc en voie de disparition, ça.
Bien.
Donc, c'est un petit transistor. Vous cliquez dessus et vous êtes sur le site de...
Pas de quartier.
Pas de quartier, voilà.
Voilà, l'émission du groupe Louise Michel, qui est tous les 15 jours. Donc, je rappelle le titre de ton livre, de ta BD... Géopolitique, histoire et théorie, avec Nicolas Gobi, chez Stankis, 18 euros. Et franchement, ça aurait pu coûter beaucoup plus cher parce que c'est vraiment une synthèse brillantissime. Je le maintiens. C'est la raison
pour laquelle.
Non, c'est pas gentil. Je dis ce que je pense. C'est bien pour ça que j'ai beaucoup de gens qui m'aiment pas.
Mais si, tout le monde t'aime.
Mais non.
Ça, c'est sûr que c'est pas. Oui.
François peut en témoigner. Ouais. Bien. Nous allons remercier Jean-Michel pour sa technique, François pour être venu à mon secours, Vincent pour
merci.
Être... Voilà. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine à 22h30, mardi 21, pour une émission exceptionnelle et dans 15 jours pour une émission aussi exceptionnelle. Voilà, donc il y aura deux pas de quartier chaque semaine. Donc, surveillez l'antenne et nous revenons tranquillement vers vous. Portez-vous bien et faites attention à vous. Merci.
Au revoir.
Au revoir.
La rage. La rage. Monsieur le Président, Madame Chirac, Bernadette, sur vos roues j'ai perdu mes dents, sur vos roues j'ai vu la fête, le froid, la pluie, mon petit déjeuner tous les matins, le vent, j'ai dessiné en mille facettes, interrogez les rues d'un gars sans oublier de Lafayette, ils vous diront il faut avoir un grain, c'est les rainettes, pour qu'on le chasse à l'âge de la retraite, je n'ai jamais dit que j'étais saint, je conduisais une camionnette, sincèrement j'ignorais le tas, cela peut arriver au prophète, Monsieur le Président, Madame Chirac, Bernadette, s'il vous plaît, tendez-moi vos mains, ou moi casse les lunettes, s'il vous plaît, tendez-moi vos mains, avant que je perds la tête. La rage. Arthur, vous qui réalisez les rêves, je vous demande pas la lune ni la fortune, s'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture, pulvérisée par la veuve. Prévu de me tuer futur, l'angoisse vous de la preuve. La rage. C'est vrai que j'ai voyagé avec un pourriture, des pourritures. Il m'a joué le rôle du Satan, son rôle a grillé Adam et Ève. Je me suis trouvé derrière les murs pour avoir conduit une voiture. Moi, interdit le territoire, j'ai fait appel à Marceau Crève. Le seul moyen de dire au public que je n'aurai cyanure. Ici, ils peuvent le faire comprendre à ceux qui se sont réjouis de me jeter comme une ordure. Moi, quand ici ma jeunesse et ma soeur sur les autoroutes du Toutry Villeneuve. Monsieur Sarkozy, monsieur de Villepin, s'il vous plaît, permettez-moi si j'ai osé de vous demander un coup de main. Car c'est lui qui m'a jugé, déteste les maghrébins. Même ceux qu'on construit, le musée, le rachat de venin. Fallait voir comment qu'il a rougi, sans négliger, m'a coupé les jambes et compris les mains. Pire que les nazis, l'entendit d'Hitler. Mon père, il a défendu la source et les artères. Dans les tenues de son fils numéro 1. Mais j'excuse les lésés si j'ai plus de freins. Si je laisse le moisi à Dieu le pain. Voilà la poésie qui m'a permis d'analyser le défaut de l'humain. La rage. Arthur, vous qui réalisez les rêves, je vous demande pas la lune ni la fortune, s'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture pulvérisée par la veuve. Prévu de me tuer futur, l'angoisse pour de la preuve. La rage. Je vous fais serment devant le juge, tu juges ceux qui m'ont jugé tel qu'un maghrébin. J'étais blessé chez mon voisin, il a rien aux zizi tout dans les reins. Il m'aurait donné un coup de fusil ou de me jouer un sale tour. J'aurais pardonné la putain. Pourquoi j'ai réagi, Serge des gamins. Leur amour m'a fait bouger sans les voir, je leur envoie des câlins. Peut-être qu'ils sont bien protégés. J'ai jamais eu de nouvelles, je ne saurais vous dire la situation de mes poulains. La rage. Mesdames, messieurs les députés, mon âme vous avoue si sincérité. C'est vrai qu'Anne m'a fait tomber quand j'étais petit. Et lui c'est vrai qu'Anne, avec ses talons, j'ai pas pu l'éviter. J'ai pas pu l'éviter, sa banane m'a marqué pour l'éternité. Mesdames, messieurs l'égalité, vous connaissez le renard depuis sa naissance, il vous a jamais quitté. Malheureusement, on profite de sa confiance, mal placée, parce qu'on adore son identité. Mesdames, messieurs la fraternité, vous voyez la conscience, aujourd'hui l'incroyable devient réalité. La rage. Arthur, vous qui réalisez les rêves, je vous demande pas la lune ni la fortune, s'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture pulvérisée par la veuve. Prévu de me tuer futur, l'angoisse vous de la preuve. Arthur, vous qui réalisez les rêves, je vous demande pas la lune ni la fortune, s'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture pulvérisée par la veuve. Prévu de me tuer futur, l'angoisse vous de la preuve. La rage.
Merci.
Il avait son secret, le loup. Et 50 kilos de patates. Un sac de sueur de bois, il te sortait 25 litres de 3 étoiles à l'alambic. Un vrai magicien, loup. Et c'est pour ça que je me permets d'intimer l'ordre à certains salisseurs de mémoire qui feraient mieux de fermer leur claque-merde.
J'ai collé une polonaise qu'on prenait au petit déjeuner.
Alerte. Attention, ceci n'est pas un exercice. Une alerte à la population est en cours.
La connerie à ce point-là. Voilà, je dis que ça devient gênant.
Finalement, c'est un peu ça, c'est dans la ville, non ? Il tient rien de
J'ai bon caractère, mais j'ai le glaive vengeur et le bras séculier. L'aigle va fondre sur ma vieille buse.
C'est chouette pour une métaphore, non ?
C'est pas une métaphore. C'est que t'as des phrases.
Enfin, moi, je suis.
Ça, c'est une métaphore.
C'est bonne que tu allais te cacher partout devant la race. C'est excessivement énervant.
Doute bien, t'as des excuses. Tu fais le dernier des métiers et ta mère était le plus beau cop vérole tertiaire du département.
Attention, ceci n'est pas un exercice. Une alerte à la population est en cours.
Les dingues, je les soigne.
Je vais faire une ordonnance.
Et une scellée. Je vais lui montrer qui c'est Raoul. Pour 4 points de Paris, on va le retrouver éparpillé par petits bouts façon puzzle.
On a coupé ça encore tourner autour du trou de porte.
Comment ne pas me mettre à l'écran sur orbite, t'as pas vu du tout.
Tu marines dans le pinard comme des squeezes dans le nez. On sent plus de globule, c'est du 11 degrés 5. Tu causes pas, tu dégueules.
Ouais, Piper.
T'es tendu comme une corde.
Mais non, je suis pas tendu.
Si t'es tendu.
Bah non.
Si je te dis que t'es tendu, t'es tendu. T'as pas entendu, je suis pas tendu.
Attention, ceci n'est pas un exercice. Une alerte à la population est en cours.
C'est curieux chez les marins ce besoin de faire des phrases.
Où tu sors, où je te sors, mais on a pris des décisions.
Écoute, on te connaît pas. Mais laisse-nous te dire que tu te prépares des nuits blanches. Des migraines.
Attention.
Des nervous breakdowns.
L'alerte à la population est en cours.
Tiens, de la part de Mickey Willis.
Oh, fais-moi le malin maintenant! Oh, fais-moi le malin!
Salut les aminches et bienvenue dans votre nouveau numéro de Panam's Not Dead. Nous sommes le 14 novembre et ce soir nous allons nous faire le concert des Shérifs à Cambrai en 2017. Voilà, je l'ai pris parce que c'est un super son, c'était une bonne captation avec un best-of hyper sympa. Format de l'émission, ça dure une heure. Et puis voilà, donc amusez-vous bien, mettez ça à fond, et on se retrouve dans 15 jours pour une émission un peu spéciale, je vous en parlerai au moment venu. Voilà, ciao et vive le feu.